Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Soyez les bienvenus dans Un œil en coulisses, chers amis, sur Osmose Radio. Vous êtes bien avec Stéphane pour parler de la programmation du Festival OFF. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de ce que font les enfants qui, dans les cours de récréation, font un petit peu leur propre théâtre. Pan, t'es mort. Non, c'est même pas vrai, c'est toi qui es mort. Et puis, oh bon, c'est pas grave, on dirait que j'en suis un autre. Et puis après, il y a la maîtresse qui vient, encore une fois, les grandes personnes, qui viennent tout casser en disant c'est l'heure de rentrer en classe. Mais nous, en tout cas, on s'enthousiasmera, par contre, de rentrer dans une salle, puisque ce sera la salle du théâtre. Théâtre des Béliers, où on peut jouer, on peut voir jouer à 15h35 tous les jours le spectacle Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, interprété par les deux acteurs que je reçois aujourd'hui en studio. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes Romain Causse.
Robin.
Robin ?
Robin.
Ah ben non, mais si vous me cassez dès le début de l'air.
Ben non, non, non. J'aurais établi la vérité.
Très bien. Donc, alors, et ben à votre côté, c'est Batman, si vous appelez.
Voilà,
Robin, du coup. Ah, d'accord. On est tous des grands enfants, finalement.
Mais vous ne croyez, vous croyez pas si bien dire, parce que dans le spectacle, il est question de super-héros également. Donc, on est sur la bonne voie.
Tout à fait. Donc, pardonnez-moi pour cette confusion. Robin Causse, vous êtes acteur, vous êtes originaire de Montpellier, pas très très loin. Et à côté de vous, il y a un garçon qui vous accompagne sur scène, qui lui est danseur, c'est Jules Martin. Bonjour.
Exactement. Bonjour.
Et donc vous, alors vous non plus, vous n'êtes pas originaire de très très loin, vous venez de Lozère.
Exactement.
Et après des études à Lyon, vous avez intégré finalement la compagnie de Damien Bricoteau, qui est metteur en scène de ce spectacle. Et finalement, vous l'avez intégré tous les deux à l'occasion de ce spectacle.
Bah oui, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Enfin, Damien a rassemblé cette petite équipe avec sa co-metteuse en scène Lucie Joliot. Jules et moi, c'est lui qui a eu l'idée d'adapter ce roman qui avait nourri son enfance, son adolescence. Ça faisait très très longtemps qu'il voulait travailler sur ce texte de Howard Button. C'est lui qui a fait cette adaptation, parce que faut dire que c'est la première fois que ce texte est adapté pour un monologue d'acteur et un monologue de danseur. C'est lui qui a eu l'idée de rassembler le théâtre et la danse autour de ce texte. Et il nous a rencontrés tour à tour, Jules et moi, pour faire partie de cette aventure. Moi, j'ai passé des auditions. J'ai été bon, apparemment, parce que je me suis retrouvé sur le projet. Et Jules connaissait Damien de Lozère, justement.
Ouais, voilà.
Parce que Damien avait, pendant 3 ans, été associé au théâtre La Jeunette Verte, qui est le théâtre de Lozère.
Mmh.
De Florac, où on a pu donc créer ce spectacle il y a 2 ans. Et puis ensuite, on a cherché pendant 2 ans des gens qui pouvaient nous aider, des diffuseurs, des producteurs. On a pu faire un showcase, comme on dit, à Paris, au Théâtre de la Pépinière. Et c'est là que les joyeux producteurs du Théâtre des Béliers nous ont repérés, se sont amourachés de ce projet, de son originalité, et nous ont offert cette chose incroyable qui est de jouer pendant 1 mois à Avignon, et puis après de prévoir 3 mois de jeu à Paris à la rentrée à partir d'octobre.
Ah. Eh bien écoutez, il y aura encore des imbéciles pour dire qu'il ne se passe rien en Lozère, mais loin s'en faut. Et en tout cas, c'est un plaisir de voir que vous êtes descendu un petit peu des montagnes pour venir dans notre vallée, nous parler un petit peu de ce spectacle qui est tiré d'un roman, comme vous l'avez précisé. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Un roman que pour ma part, je connais depuis une trentaine d'années, et dont les 3 aspects du titre continuent de m'intriguer ou de me faire rire un peu jaune parfois. C'est la tendresse et l'humour de la petite faute d'orthographe, je m'ai tué. 5 ans, en principe, c'est l'âge tendre. Et puis en même temps, il y a la grande violence de ce titre. Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Quand j'étais à l'âge tendre, j'ai eu envie de me suicider. C'est un petit peu glauque, a priori, sordide comme texte. Et pourtant, c'est loin d'être le cas sur scène, avec ce double monologue que vous venez de le préciser. Alors, vous êtes un peu en stéréo sur scène, si je peux me permettre, d'une certaine manière. Mais ce roman, finalement, qui était sorti en 1980, il me semble, par Howard Button, ce roman, finalement, vous l'avez découvert vous-même en préparant le spectacle.
Ouais, totalement. Moi, je connaissais pas du tout. En plus, je suis de 94, donc c'est vraiment.
Ah ben oui, il faut préciser aux auditeurs que vous êtes relativement jeune, que vous pouvez pas le lire à l'époque. Ça, c'est
sûr.
Et oui,
non, voilà. Et mes parents, sûrement, ont dû le lire quand ils étaient plus jeunes, mais c'était pas dans la bibliothèque de la maison. Donc voilà, j'ai découvert ce roman pour ma part en commençant le projet avec Damien et Robin et Lucie il y a 2 ans.
Oui, moi j'ai découvert effectivement le roman aussi à cette époque-là. Quand Damien m'a parlé du projet, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Ça m'a tout de suite énormément touché parce que ça parle de l'enfance. Ce petit garçon qui est le héros principal de l'histoire est central dans cette histoire. Il nous raconte ses affaires. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est complètement universel, atemporel. Et puis, c'est la violence. Mais comme vous le disiez, tout est résumé dans le titre. Il y a à la fois cette violence-là, le goût des mots, parce que c'est un enfant qui manie les mots et la parole avec une certaine habileté. Et la langue de Warburton est très, très forte. C'est un texte qui est vraiment très, très fort, très, très beau à entendre, parce qu'il y a une syntaxe particulière, effectivement, avec ces fautes d'orthographe qui amènent de la candeur, de l'amusement.
Et puis ça reste quand même un roman, donc c'est pas forcément une histoire vraie, mais c'est quand même tiré de toute l'expérience professionnelle que lui il a pu avoir en tant que psychothérapeute et aussi clown, et du coup il est devenu écrivain même par rapport à toute cette expérience là. Donc ouais, c'est le fait de se mettre à la place de cet enfant, que cet adulte réussisse à se mettre à la place de cet enfant et à ressortir un texte aussi riche comme ça. Il y a un pari gagné quelque part pour...
Il arrive qu'il y ait des gens qui n'accrochent pas du tout justement à ce style, un peu comme des fleurs pour Algernon dans un autre genre, qui utilisait lui aussi un langage assez, assez curieux qui tenait à son personnage, en l'occurrence un déficient intellectuel. Et pourtant, on a été nombreux, et quelles que soient les générations, à être touchés par ce gamin qui effectivement sait manier le verbe, mais évidemment avec les mots de son âge. Donc, vous avez pu vous réapproprier un petit peu ce personnage de Gilles que vous interprétez sur scène. Si je vous pose cette question, vous rassurez-vous, c'est pas pour vous mettre en porte-à-faux. Moi-même, j'apprends des trucs en préparant une émission de radio. Donc il n'y a pas de mal. Le parti pris de Damien Bricoteau, le metteur en scène, tel que moi en tout cas je l'ai perçu dans le public, c'est donc ce double monologue que vous suggériez tout à l'heure, en traduisant la façon dont les adultes voient Gilles, qui est un garçon un petit peu particulier, qui est un garçon qui a du caractère, certains diraient caractériel, qui le qualifie parfois un peu facilement d'autiste ou de schizophrène, ce qui n'est pas forcément la vérité, ce qui est simplement un préjugé que les adultes impriment sur ce petit bout de chou qui a un caractère bien trempé. Et du coup, j'ai eu l'impression que le parti pris du metteur en scène Damien Bricoteau et de sa collègue Lucie, vous me disiez, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Puisqu'ils travaillent un petit peu en binôme. Traduire un petit peu et exprimer le personnage de Gilles sur scène, ça aurait été de dire « Ah, vous le considérez comme quelqu'un qui a un peu une double personnalité ?» Très bien, on va faire ça. Et du coup, il y a un acteur et un danseur, vous, Robin, et vous, Jules. Et donc, du coup, vous incarnez un petit peu cette dualité réelle ou supposée de la personnalité de cet enfant, Gilles, sur scène, en étant deux sur scène. De fait, il y a quand même une hiérarchie qui s'installe parmi vous. Moi, je parle en tant que spectateur, puisqu'il y en a un qui manie le verbe, Robin, vous, l'acteur. Vous, Jules, vous venez un peu en contrepoint avec les mouvements de danse que vous produisez vous venez vous-même de la danse contemporaine. Donc, est-ce que... Au niveau de la chorégraphie, est-ce que vous avez fait des suggestions ? Comment s'est passé en fait la mise en place de cette chorégraphie en contrepoint du texte du personnage ?
Alors, ce qu'on voulait surtout pas en fait, c'était imager le texte, c'est-à-dire donner au spectateur, illustrer voilà, avec le corps ce que Robin pouvait raconter, ce qu'il y a déjà dans le texte. On voulait vraiment mettre la danse contemporaine dans son fort, c'est-à-dire essayer de se rapprocher au plus près du ressenti, de l'expression. Que peut avoir Gilles en racontant ce qui lui est arrivé, que ce soit dans la vraie vie ou dans les flashbacks quand il est dans cette maison pour enfants. C'était vraiment pas illustré, et du coup raconter avec le corps l'expression que cet enfant peut avoir, donc dans différentes crises, dans différents moments, et trouver une gémellité aussi avec ce monologue parlé qu'a Robin.
Mais c'est vrai que l'idée, on a travaillé avec des tour à tour un chorégraphe puis une chorégraphe qui a repris le travail en cours de route.
Voilà. On a travaillé d'abord avec Lionel Abou, qui était un premier chorégraphe, et ensuite Noémie Etelin.
Noémie Etelin qui travaille beaucoup avec James Thierry notamment. Mais c'est vrai que l'idée de Damien Bricoteau, tout de suite, il a trouvé cette évidence de mettre de la danse dans ce spectacle pour effectivement deux raisons. Le fond, vous l'avez dit, c'est pour pouvoir exprimer ce qu'il n'y a pas dans, dans les mots déjà, de pouvoir montrer cette, la personnalité de ce petit garçon qui, tour à tour, exalte de joie, et donc ça se ressent dans ce corps qui est, on voulait un corps sublimé, un corps fantasmé, en plus il se prend par moments pour un super-héros, pour Superman, donc il y a des chorégraphies très très envolées, très joyeuses, très, d'un corps puissant que Jules incarne, et également dans les scènes d'institution, ce qu'on appelle les scènes où il est enfermé face à ses médecins, psychologues qui essaient de le canaliser, il fait ce petit garçon des crises, et Jules prend en charge aussi tous ces moments où le corps de cet enfant explose dans quelque chose de violent. Et après, dans la forme, on voulait vraiment mélanger le théâtre et la danse. Et c'était le pari de ce spectacle, d'avoir deux parcours, que les gens, les spectateurs, puissent suivre tour à tour Jules ou moi, sans jamais tomber dans la complaisance ou dans l'illustration, comme on venait de dire. Donc c'est vraiment deux... On pourrait regarder le spectacle qu'en regardant Jules, qui a tout un parcours indépendant, ou en ne suivant que le texte avec moi. Et je pense que c'est assez réussi. C'était le pari de... Beaucoup de spectateurs sortent en disant « Oh là là, quel beau duo !» Et en fait, c'est ça le meilleur compliment qu'on puisse nous faire sur ce spectacle.
Et je vous confirme, cette dualité, ça marche. La danse, c'est la liberté. Hein, les mouvements tels que vous les interprétez traduisent ça étonnamment. Et pourtant, on reste au théâtre, donc on reste attaché au texte et au verbe. Et du coup, c'est vous qui arrivez en premier plan. Mais ce duo, ça fonctionne. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Et ça traduit en l'occurrence cette histoire. Alors, de ce personnage de Gilles, qui, comme vous l'avez précisé, donc par rapport à l'histoire et au roman lui-même, puisqu'il s'agit de transposer le roman sur scène, commence en fait dans une institution spécialisée où on prétend le dresser en quelque sorte, hein, et on le considère comme un enfant. Il a 8 ans au moment où démarre l'histoire, et ce qui contredit un peu le titre, quand j'avais 5 ans j'ai tué, mais on comprend qu'il y a eu un petit délai entre les deux, et il se trouve que la petite fille à laquelle il aurait fait du mal se trouve à l'hôpital. Et là, déjà, il y a une tension dès le début du spectacle. Ceux qui n'ont pas lu le roman, forcément, se disent il s'est passé quelque chose de grave. On comprend à la fin de la pièce que ce n'est pas si grave que ça. Mais ça, c'est le monde des adultes qui apporte ce jugement-là. Pour ma part, donc, j'avais lu le roman avant, mais il y a quand même quelques détails qui se sont rappelés à ma mémoire. Moi, j'aurais pensé que ça venait de ce carcan puritain, particulièrement américain, que ça venait. Et en fait, ben, pas spécialement, parce que Gilles est d'origine juive, en fait.
Oui, mais c'est vrai que l'univers... Alors là, il y a une adaptation, en fait, dans le spectacle, qui fait 1h10. Il y a plein de personnages du roman qui ne sont pas présents, il y a plein de scènes qui ne sont pas présentes, mais il y a encore... Gilles, il vient de cette famille, effectivement, famille peut-être modeste, plus américaine, mais avec... quelque chose d'assez puritain, effectivement. Et je pense que Warburton a voulu aussi dénoncer cette société-là.
Plus la société que la religion, en fait.
Parce que la religion n'est pas très présent dans le spectacle.
Bah pour Gilles, c'est l'accent de sa grand-mère qui a l'accent yiddish. Voilà. Il en parle avec beaucoup d'humour.
Oui. Non, et puis... Et puis c'est surtout, en fait, ce spectacle, c'est ça qui est bouleversant, et c'est ça qui nous déroute, nous, adultes, enfin, nos spectateurs, c'est que c'est une histoire d'amour. Cette histoire, il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement l'histoire d'un gamin qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique, c'est avant tout une histoire d'amour entre deux petits garçons.
Un petit garçon, une petite fille, Jessica, en l'occurrence. Ouais.
Et c'est parce que Gilles rencontre Jessica, tombe amoureux d'elle à l'école, que tout se met en branle, et le monde des adultes ne comprend absolument pas comment c'est possible d'avoir ce genre de sentiments à cet âge-là. Et effectivement, ils vont arriver à avoir une relation charnelle qui est dans le roman, qu'on a gardé dans l'adaptation, qui est un peu trouble, c'est-à-dire qu'à un moment, la mère de Jessica découvre ses deux enfants.
Et elle réagit de manière très violente.
Voilà.
Et finalement, la violence vient plus du regard des adultes que des scènes de touche pipi des
sûr,
enfants.
Bien
quoi.
Sûr.
On dit balance ton porc aujourd'hui, mais là, pour des enfants de cet âge-là, c'est pas forcément le cas. Et donc, il y a des tas de détails qui sont rappelés à ma mémoire. Gilles reste quand même un enfant, donc il a une personnalité bien trempée, on le disait tout à l'heure. Il sait faire preuve de cruauté par rapport aux autres enfants qui côtoient dans cette institution spécialisée. Il montre un jaune d'œuf, par exemple, dans un œuf au plat à un de ses camarades. Hey, t'as vu, c'est ton œil. Et il plante un couteau dedans. Mmh. Voilà. Mais en même temps, c'est cruel, mais on peut pas s'empêcher de rigoler, en fait.
Il se sent pas vraiment aussi comme ces enfants-là, en fait. Enfin, voilà, il comprend pas vraiment pourquoi il est là. Mmh. Et du coup, pour lui, tout va bien en lui, donc il comprend pas ce qu'il fait dans
ça. 8 ans, c'est l'âge à laquelle on distingue à peu près le bien du mal. Et ce gamin qui, depuis ses 5 ans, depuis 3 ans, c'est autant dire une éternité dans sa vie, on lui dit qu'il a fait quelque chose de mal. Comment pourrait-il le savoir?
Oui, non, mais c'est ça. Mais Jules le dit très bien, c'est qu'il se retrouve dans la même institution que d'autres enfants, comme il dit, qui sont dégueulasses à regarder. Et lui, il a cette innocence, cette naïveté et c'est ça qui crée l'humour aussi de ce personnage, de dire ce qu'il voit. Et il dit, mais il y a des gens autour de moi, des enfants qui font des grimaces, qui ne parlent pas correctement comme moi. Pourquoi je suis là? Moi, je comprends pas. Mais après, dans cette institution, il y a un personnage qui est central, qui rencontre. Mais vous allez peut-être...
Je suis content que vous y veniez, parce que c'est quand même pas manichéen. Gilles ne condamne pas tous les adultes en vrac. Il y a ce personnage de thérapeute particulièrement intéressant.
Voilà, ce personnage qui rencontre, qui est un thérapeute qui fait partie de l'institution, et qui s'appelle Rudyard Walton, et qui est un peu le contrepoint du premier médecin que Gilles rencontre à l'institution, qui s'appelle le docteur Nevel. Qui représente plutôt l'institution, tout ce que ça de plus cartésien, un médecin qui essaie. Je pense que ce médecin-là essaie de d'aider Gilles, mais avec des manières peut-être plus
d'adulte,
oui, ou ancestral.
Voilà, ça c'est une interprétation de votre part. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il essaie plutôt de faire rentrer Gilles dans une case qui correspond à ses grilles d'analyse à lui.
Mais
c'est un cartésien, quoi.
Il pense bien faire, parce que dans les années passées, on a toujours fait comme ça. Mais en contrepoint, il y a Rudyard qui voit chez cet enfant quelque chose de plus intéressant et il accompagne. Et il y a cette théorie du guérisseur malade où Rudyard se met à la place de l'enfant, se met à son niveau pour lui tendre la main et le rassurer surtout.
Et lui faire comprendre qu'il peut aussi se soigner de lui-même parce qu'il est tout à fait normal comme garçon.
Ouais.
Voilà, donc le jugement se situe en fonction des échelles de valeur, des adultes, des enfants ou des différents thérapeutes entre eux, quelle que soit leur méthode. Alors évidemment, nous, en tant que spectateurs adultes, je parle, on a d'autres références qui nous viennent en scène, en tout cas, elles m'ont sauté, elles me sont venues en tête. À l'issue de votre spectacle, j'ai pensé évidemment à Jack Nicholson dans Voyage au-dessus d'un nid de coucou, Vol au-dessus d'un nid de coucou, pardon. J'ai pensé aussi plus récemment à L'étranger de Camus, où là encore, c'est la société qui juge cet homme-là, qui lui finalement ne se sent pas coupable, ou enfin, il pense pas avoir fait quelque chose d'aussi grave que ça, en tout cas pas pour les raisons qu'on le lui reproche. Et donc on pourrait faire des comparaisons, on peut aller loin dans ce jeu là mais moi ce qui est touchant aussi, et que vous savez vraiment bien tous les deux retranscrire sur scène, que ce soit par la danse ou le texte, c'est un petit peu l'imaginaire de cet enfant, ces fautes d'orthographe qui sont tout à fait mignonnes, ces mots d'enfant assez truculents, l'imaginaire quand il rêve qu'il va sur un cheval volant pour impressionner Jessica, par exemple. Alors là, vous en tant que danseur, vous savez intervenir, donc toutes ces fautes, et évidemment de sa fascination pour le rock'n'roll et les super-héros.
Mais c'est vrai, vous avez raison de parler d'imaginaire, c'est très important, d'autant plus qu'on a vraiment créé, à partir d'un roman, un spectacle de théâtre et de danse, et l'imaginaire est très très important quand on adapte ce genre d'histoire sur scène, parce que ça devient un vrai objet théâtral, et notamment la scénographie, la mise en scène participe à activer chez les spectateurs leur imaginaire, c'est-à-dire qu'on a un décor qui n'est absolument pas concret. Jules construit la scénographie en même temps que le spectacle avance. On a, je veux pas tout spoiler, mais
vous avez raison de le préciser. La mise en scène est très sobre sur le plateau.
Ouais, scénographie est composée d'une sorte de Mikado géant qui tour à tour, enfin, sont des bâtons et tour à tour.
Deviennent des murs,
des espaces qui empêchent, des ouvertures, de la matière à jouer. Et c'est vrai que la totale mise en scène participe à à souhaiter ces enfants, comme vous le disiez au début de l'émission, qui, dans une cour d'école, voilà, prennent un bâton et ils ont l'impression que c'est une épée d'Excalibur. Donc, les gens, je pense qu'ils reçoivent ça en voyant le spectacle. Ça appelle leur imagination est réveillée. Et comme le personnage. Donc, il y a une sorte d'identification, je pense.
C'est vrai, je laisse les auditeurs et devenir spectateurs du spectacle et voir par eux-mêmes le jeu des bâtons, en l'occurrence, qui interprète tantôt des cases dans lesquelles on prétend enfermer le danseur et dont il saute éperdument, dont il s'évade éperdument, et qui aussi évoque au tout début du spectacle un tipi d'Indien dans lequel les enfants aiment jouer. On a tous fait ça dans le jardin quand on était petit. Voilà, donc vous l'aurez compris, quand j'avais 5 ans, je m'ai tué à 15h35 au Théâtre des Béliers par Robin et Jules. Un spectacle qui vaut le coup d'œil si vous avez aimé le roman et qui vous permettra de le découvrir si vous ne l'avez pas lu.
Et puis il faut dire aussi, on a la chance d'être dans ce théâtre qui est le Théâtre des Béliers, qui est un des gros théâtres du festival Avignon Off. On a la chance d'être produit par eux et on est dans cette grande salle des Béliers, en plus qui a été refaite à neuf avec des sièges très confortables, une très belle climatisation.
c'est
important c'est important pour le visuel du spectacle, parce que on avait besoin d'espace aussi pour la danse et donc voilà, enfin on est très heureux d'être dans ce lieu, les gens sont très charmants et on accueille les gens avec plaisir. Il y a une cour dans ce théâtre où on peut rencontrer les gens après. Donc on vous invite tous les auditeurs d'Osmose à venir nous voir et on serait ravis de discuter avec vous.
Et à titre personnel, ça n'engage que moi bien entendu, mais c'est vrai que j'ai apprécié votre spectacle, d'autant plus que j'avais apprécié le roman quand j'étais ado, mais votre spectacle a les qualités et les défauts du roman en lui-même, c'est-à-dire que des fois il y a quelques longueurs. En observant le public, j'ai pu observer certains moments de flottement, mais qui n'ont duré que quelques minutes, et de toute manière, à mon sens, ce n'est pas rédhibitoire, puisqu'il y a toujours un gag, il y a toujours un mouvement de danse qui ramène la tension, et on rebondit et on est reparti sur autre chose.
Vous savez comment c'est à Avignon, les gens, c'est un public assez spécial qui est sollicité tout le temps, qui voit peut-être 3, 4, 5 spectacles par jour. Donc nous, on est habitués à jouer devant ce public de festivaliers et il n'y a aucun souci. Et on comprend
d'autant plus
très
que
bien.
La salle est climatisée.
Ouais. Mais les gens ne s'endorment pas.
Ah non, attention, j'aurais pas dit ça. Vous ne seriez pas sur ce plateau si je m'étais endormi, soyez-en sûr. Mais écoutez, merci Robin Cos, merci Jules Martin d'être venu nous parler de ce spectacle que vous interprétez jusqu'à la fin du festival à 15h35 au Théâtre des Béliers. Sauf le dimanche, vous faites deux représentations.
Oui, le dimanche, on a une deuxième représentation le soir à 20h50.
Très bien, à savoir. Et donc
parce qu'on ne joue pas le lundi.
C'est relâche. Voilà. Eh bien, écoutez, comme on disait tout à l'heure que cet enfant était fasciné par les super-héros, Superman ou le Superman du rock'n'roll, Elvis Presley, qui veut se faire une banane mais que sa maman ne veut pas, etc. Enfin bref. Eh bien, on va se quitter justement avec une chanson d'Elvis Presley où Elvis s'adresse un petit peu aux enfants avec le titre qu'on va écouter pour conclure cette interview. Merci à tous les deux. Sing You Children.
Well, Jonah, he was desperate in the belly of the whale. But Jonah had a plan. He knew he couldn't fail. He raised his head on high, looking for the sky. And he sang that song so pretty, the whale told him goodbye. Got to sing, you children, sing. Sing, you children, sing. Only said, good Lord, won't you part these waters for me so I can get your children across the salt sea. The Lord imparted the waters, and singing hand in hand, Moses and the children walked over to the promised land. Sing, you children, sing. Sing, you children, sing. I only know one thing. Jericho, he marched
around his walls and on his horn he blows. That horn would play a song and sing a happy tune. When Joshua got through, the walls came tumbling down. Got to sing, you children, sing, sing, you children, sing, on and on.